Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Alors rapidement, nous allons avoir un court message ce matin, puisqu'après on va aussi passer à la remise des diplômes. Et vous avez sur votre feuille, donc une petite, sur votre chaise, une petite feuille. C'était un maillage où vous pouvez suivre le message. Et le thème de ce matin s'intitule « Espérer contre toute espérance ». D'accord ? Espérer contre toute espérance. En priant cette semaine pour vous, Pasteur Bruno, arrête de rire parce que il faut pas que je regarde Pasteur Bruno, sinon j'ai. Alors, en priant pour vous dans la semaine. J'ai vraiment eu à cœur, notamment pour les étudiants, mais aussi pour chaque personne qui serait présente ce matin, de ranimer la flamme de l'espérance dans nos vies. Et je vais vous lire un court passage de la parole de Dieu, magnifique passage, et j'espère en tout cas que nous puissions tous ce matin ressortir de ce lieu en ayant une espérance vivante et affermie dans nos cœurs. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et je me disais, si ce qu'on va vous partager ce matin était partagé à tous les Français, je crois qu'il y aurait moins de malades à la sécurité sociale. Parce que souvent les gens tombent dans la dépression, souvent les gens sont malades, souvent on est oppressé, souvent on ne réussit pas, souvent on ne rêve pas, souvent on vit la vie de chaque jour telle qu'elle est, parce qu'on n'a pas d'espérance. Ou on en manque. Ou on pense avoir une espérance et c'est une espérance superficielle. Intellectuelle, une espérance dans la tête. Or que l'espérance que Jésus nous donne est vivante. Regarde ton voisin et dis-lui, espère contre toute espérance. Un roi, à partir, chapitre 4, à partir du verset 8, nous dit ceci. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée le lui avait prédit. Extraordinaire passage de la parole de Dieu. Super puissant. On voit ici le prophète Élisée arriver dans la maison d'une femme, la Sunamite, qui respecte cet homme de Dieu et qui dit à son mari, allons lui faire une chambre haute. Le mot Sunem signifie lieu de double repos. C'est intéressant. Et quand Élisée venait, donc, il pouvait se reposer sur le trajet de son ministère. Et cette femme, pour honorer le prophète, avait fait une chambre haute. Et Élisée touchait dans son cœur et il demande à son serviteur Géasi, va la voir et demande-lui qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Et Géasi donc va la voir, et la femme dit, non, je n'ai besoin de rien. Le terme, lorsqu'elle dit j'habite au milieu de mon peuple, signifie je ne manque de rien. C'était une femme de distinction. C'est-à-dire, c'était une femme qui était prospère, aisée, riche. C'était une femme qui avait déjà beaucoup de biens, beaucoup de choses. Et Élisée voulait faire quelque chose pour elle. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose pour quelqu'un qui semble avoir tout? Est-ce que vous avez vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un? Vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux l'offrir? Il a déjà tout, elle a déjà tout. Et Élisée donc demande à son serviteur, va la voir et demande-lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle dit, non, pas grand-chose, j'ai ce qu'il faut. Et là, Élisée lui dit, demande-lui si on peut parler au roi pour elle, ou au chef de l'armée. Élisée dit, on va parler au président, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Je veux tellement rendre l'honneur à cette femme qui nous honore. Qu'est-ce que je peux faire? Géasi, il faut qu'on trouve quelque chose. Et là, la femme dit, non, pas la peine de parler au roi. C'est mon copain. Pas la peine de parler au chef de l'armée. J'ai besoin de rien. Imagine que le pasteur Bruno vient te voir et il te dit, attends, tu veux que j'aille voir le président pour toi? Je vais aller voir Dieu pour toi alors. Et elle a dit, non, 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 j'ai besoin de rien. Et puis Élisée continue de réfléchir. Et là, Géasi, son serviteur, lui fait une remarque et lui dit, tu sais, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est âgé. Et là, Élisée réalise qu'il y a un besoin dans la vie de cette femme qui semble n'avoir aucun besoin, qui n'a pas été comblée. Elle avait en elle un rêve caché, enfoui, un rêve dans lequel elle avait mis tant d'espoir, mais qui ne s'était jamais réalisé. Elle avait en elle un désir profond d'avoir un enfant, mais elle ne l'a jamais eu. Et quand Élisée lui dit qu'il apprend qu'elle n'a pas d'enfant, elle lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un fils dans ta main. Sa réponse est étonnante. Elle dit, oh non, mon Seigneur, non, ne me donne pas de faux espoirs. Non, c'est pas la peine. Une femme qui, soi-disant, avait tous les besoins, lorsque le prophète a discerné quel était le véritable besoin, elle dit, non, non, je veux pas, ne me parle pas de ce besoin-là, ça me fait trop mal. Ne me parle pas de ce rêve-là, je l'ai enfoui, ça me fait trop mal. J'ai espéré et ça ne s'est jamais réalisé. J'ai eu une prophétie une fois, j'ai jamais vu arriver. J'ai espéré et j'ai été déçu. J'ai attendu de voir la percée, elle n'est pas arrivée. Chaque mois, j'imagine cette femme, chaque mois lorsque les femmes ont leur mensualité, de voir ça arriver, la mensualité, leur règle. Comprenez, on est des hommes. Obéit pas la même mensualité. Ah, je vous remercie, vous suivez bien, parce que quand j'ai dit mensualité, vous avez fait une tête. J'ai compris alors que c'était pas le bon mot. J'ai compris que j'ai à nouveau fait une trompaison. Donc, bref. J'imagine tous les mois cette femme attendre avec son mari. On dit aussi les Anglais, non? Ah là là. Et cette femme qui va voir son mari qui lui dit non, passe-moi-ci. Le mois suivant, passe-moi-ci. Et chaque mois, elle a l'espoir et jamais ça arrive. Son mari est vieux. Elle s'est résignée. Elle a enfoui son rêve et elle se dit en elle-même, ce n'est plus la peine d'espérer. Et donc, pour elle, elle vit sa vie, une femme de distinction, prospère, qui semble n'avoir aucun besoin, mais qui en réalité en avait caché un. Le principal, elle l'avait abandonné. Elle ne voulait pas le déterrer, elle ne voulait pas ressusciter ce rêve. Et ce matin, dans ce lieu, en priant pour vous, je crois que plusieurs parmi nous sont dans cette situation. Peut-être que tu as espéré que ton couple soit restauré depuis des années et ça n'a jamais été le cas. Chaque fois qu'il semble avoir un léger mieux, une grosse dispute éclate et c'est le clash. Peut-être que tu as espéré depuis des semaines de trouver un travail, mais chaque fois que tu as un entretien, c'est pas le cas. Peut-être que tu as espéré, je sais pas, être réconcilié avec ton enfant, et depuis des années, vous vous parlez pas. Peut-être que tu as un rêve, que tu désires rentrer dans l'appel de Dieu, dans ta destinée, mais tu as espéré, mais tu as été tellement blessé par la déception que tu as enfoui ce rêve. Et c'est quelque chose dont tu ne veux plus parler. C'est quelque chose dont tu as enfoui, mis de côté. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur est dans ce lieu. Que tu sois étudiant ici à l'église, aux un membre de l'église ou visiteur. Sache que le Dieu qu'on sert, Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu de l'espérance. Et qu'il est capable de ressusciter n'importe quelle situation morte. Il est la résurrection. Il s'appelle la résurrection. Il dit à ses disciples, « Je suis la résurrection et la vie. » Quel que soit le rêve que tu n'oses plus penser, Jésus est capable de le ressusciter. Et cette femme, donc, avait une espérance morte. Elle était fatiguée d'espérer. Peut-être que toi, tu es fatigué d'espérer d'avoir une percée dans tes finances, une percée dans ton travail. Peut-être que tu es fatigué d'attendre une percée dans ta famille. Mais j'aimerais te dire ce matin, espère contre toute espérance. Mets ta confiance en Dieu. Attends-toi à lui. Il est capable de répondre à ta requête. Il est capable de te servir. Il est capable de faire naître en toi les rêves que tu as enfouis. Il est capable de réveiller en toi la destinée qu'il a mis en toi et qu'il a préparée d'avance. Nous avons tous en réalité des besoins non comblés. Nous avons tous en réalité des espérances non satisfaites. Nous avons été créés pour espérer. Celui qui n'espère plus est déjà mort. Le monde dit, comme vous le savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai. Mais s'il y a de la vie et s'il y a de l'espoir, c'est là aussi que la vie se renouvelle. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il y a aussi de la vie. L'inverse est vrai aussi. Et c'est ce que Dieu veut nous partager ce matin. Écoute bien ceci, un homme de Dieu a dit, tous les domaines de ta vie qui sont dépourvus d'espérance sont sous l'influence d'un mensonge du diable. Bill Johnson. Tous les domaines de nos vies qui sont sans espérance sont en réalité sous l'influence d'un mensonge du diable. Quand on commence à abandonner, à baisser les bras et à dire « laisse tomber, je viens à l'église, je prie, j'ai eu des promesses mais je ne vois pas arriver. » Et lorsque tu reçois une prophétie d'un frère qui te dit, tu sais, Dieu te dit, tu fais « ouais, ouais, merci, ouais. » Mais dans ton cœur, tu es tellement blessé par la déception que tu as enterré l'espoir. Et je sais que ce message s'adresse à plusieurs d'entre nous. Et ce matin, Dieu veut réveiller l'espoir qui sommeille en toi. Et c'est le premier point de cette feuille, de ce thème de ce matin. Regarde ton voisin et dis-lui, ranime l'espérance vivante que Dieu a mis en toi. 1 Pierre 1:3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous savez, le mot espérance, c'est le mot elpis en grec, ça signifie une attente confiante que quelque chose de bien va arriver. C'est une attente confiante que quelque chose de bien va se produire. Et si toi et moi on sait que Dieu est bon et qu'il nous aime, on s'attend à quelque chose de bien. Parce que l'espérance naît de l'amour. La Bible dit que l'amour espère toujours. Et dans Romains 5, 5, la parole de Dieu nous dit que l'espérance ne nous trompe pas, car l'amour de Dieu a été semé dans nos cœurs. L'espérance de Dieu est vivante. Ce n'est pas une espérance morte. Ça signifie quoi une espérance vivante? Ben, tout simplement une espérance qui apporte la vie, même quand les circonstances semblent mortes. C'est une espérance qui apporte la paix. C'est une espérance qui apporte la joie. Le mot espérance signifie aussi refuge. Vous savez, espérer, c'est une nécessité psychologique. C'est psychologique. Quelqu'un qui commence plus à espérer commence à déprimer. Le désespoir t'emmène à désespérer, à déprimer, à être opprimé. Mais peut-être tu rêves, je ne sais pas, tu as un rêve en toi. Tu rêvais, je ne sais pas, d'être pilote de moto, comme Lionel qui est parti, qu'on a béni la dernière fois. Ou comme Suzanne et Christophe qui arrivent aujourd'hui à Boston et qui rentrent dans leur destinée, qui ont choisi de payer le prix pour que l'espoir et le rêve en eux ne s'étouffent pas. J'aimerais te dire ce matin que Jésus est capable de ranimer l'espoir que tu as enfoui. Quel que soit ton âge, espère contre toute espérance. Romains 4, verset 18 nous dit ceci. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham était un homme vieux quand il a eu Isaac. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, lui non plus. Et sa femme devient vieille. En plus de ne plus avoir ses mensualités, elle devient vieille, donc elle est ménopausée. Là, il faut un double miracle. Abraham est âgé, Sarah est âgée, et la Bible dit que Abraham, malgré tout, a espéré contre toute espérance. Quand les circonstances l'avaient déçu maintes et maintes fois, quand la promesse de Dieu se faisait vague, confuse, elle paraissait loin, la Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Et ce matin, j'ai envie de m'adresser à chacun d'entre nous, individuellement, personnellement, et vous encourager à espérer contre toute espérance. Yann, espère contre toute espérance. Ce que Dieu veut. Abraham, lui, c'est ce qu'il a fait. Vous savez, celui qui reste une victime des circonstances reste dans l'impuissance. Celui qui à chaque fois dit « Mais oui, mais c'est pas de ma faute, c'est mon papa, ma maman, mon passé, mon tonton, ma tati, mon patron, les circonstances de la vie qui fait que je suis comme ça, que j'ai pas pu faire ci », il reste une victime. Et si on se comporte en tant que victime, on ne peut pas avoir la victoire. Pour avoir la victoire, il faut avoir l'espoir. C'est l'espoir qui nous amène à la victoire. Mais celui qui reste une victime est dans l'impuissance. Parce que celui qui est une victime va dire « j'ai pas pu parce que quelqu'un ou quelque chose a été contre moi et m'en a empêché ». Mais celui qui se dit « non, quelqu'un ou quelque chose a leur part de responsabilité, mais je choisis malgré tout d'espérer contre toute espérance parce que je sais en qui je crois ». Et je ne mets pas mon espérance dans quelque chose, mais je mets mon espérance en quelque chose, en Dieu. » en une personne. Il est mon espoir, mon espérance. Vous savez, celui qui manque d'espérance ne peut pas être connecté à ce que Dieu fait. Parce que quand tu es connecté à ce que Dieu fait, tu espères contre toute espérance. Donc, si toi et moi, lorsqu'on manque d'espérance, c'est qu'on n'est pas connecté à la volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu veut qu'on espère toujours. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, nous dit la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance de Dieu vivante. Quand tu espères, ça se voit. Peut-être que les circonstances ne te sont pas favorables, mais tu espères en espérance. Et j'aimerais te rappeler un conseil qu'on a déjà vu à l'église ou à l'école biblique. Si tu ne veux pas te laisser avoir par le désespoir, arrête de regarder à ce que tu penses que Dieu ne fait pas pour toi. Mais regarde à ce que Dieu fait pour toi, ce qu'il a déjà fait. Peut-être que tu attends une guérison et ça n'arrive pas et tu es déçu depuis je ne sais pas combien de temps. Si on regarde à ce que Dieu semble pas faire, on peut facilement désespérer. Peut-être que tu es ici dans ce lieu et il y en a. Et tu as un enfant qui a été brisé parce que tes parents se sont séparés. Et la vie est difficile pour toi. Et tu espères que la vie sera meilleure. Et je t'encourage à mettre ton espérance en Jésus. Il fait la différence. Jésus, notre refuge, espère en lui. Notre refuge, c'est pas en quoi, mais c'est en qui ? En Jésus. La Bible dit dans le Proverbe 21, verset 31, « Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » La délivrance appartient à l'Éternel. Peut-être que tu attends une guérison, tu es parti voir les médecins, tu as une prophétie, et ça n'est pas arrivé. Ne désespère pas. Espère. Regarde à ce que Dieu fait. Regarde à ce que Dieu est capable de faire. Si tu attends une guérison, que c'est ton frère qui l'a reçu, je t'encourage, difficile, mais ne sois pas jaloux. Prends ce qu'il a fait dans la vie de Lot comme une prophétie pour toi. Et s'il est capable de faire dans Lot, il sera capable de faire en toi. Mais ne laisse pas la déception que toi, tu n'as pas reçu ce que Lot a reçu, te miner le moral et te faire voler l'espoir. Mais ce qu'il a fait en Lot, il est capable de le faire en toi. Dieu ne fait pas de favoritisme, même s'il a défavorisé, comme on a déjà vu. Mais regarde ce qu'il fait en Lot. Et il est capable de le faire en toi. Espère contre toute espérance. L'espérance apporte la vie. Prépare-toi. Va voir s'il faut les médecins. Va chercher à prier jeune. Mais garde l'espoir. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais j'aimerais qu'on puisse, en quelques minutes maintenant, voir le deuxième point, qui s'intitule « L'espérance et le langage du Saint-Esprit ». L'espérance que Dieu nous donne, c'est un langage, c'est la façon de Dieu de nous montrer qu'il nous aime. Vous savez, dans Actes 2, verset 17, il est écrit « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Cela signifie, si Dieu donne des visions, si Dieu donne des promesses, si Dieu donne des songes, c'est pour animer en nous l'espérance. C'est très important. Quand Dieu donne une promesse, par une prophétie, par une vision, par ici des songes, c'est pour animer en nous l'espérance. Et donc l'espérance, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit nous donne l'espoir. celui qui donne l'espoir par le langage du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 5, 5 également que l'espoir que nous avons reçu ne trompe pas, il est vrai. C'est pas un espoir trompeur, celui du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu était semé dans nos cœurs. La Bible dit dans Éphésiens 1, 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi ? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. L'espérance nous ouvre les yeux. Quelle espérance ? L'espérance de sa destinée dans ta vie. C'est ça que tu connais, ta destinée, tu as de l'espoir. Dieu te destine à avoir un couple fort. Dieu te destine à avoir une famille forte. Dieu te destine à avoir des enfants forts dans le Seigneur. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pourquoi ? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à sa destinée. Sa destinée pour toi est remplie d'espérance. L'espérance est le langage de Dieu. C'est l'espérance qui nous pousse à la repentance. C'est l'espérance qui nous permet de marcher dans la puissance. C'est l'espérance qui nous permet d'avoir la persévérance. C'est l'espérance qui nous permet de désirer la croissance. Si tu ne fais plus rien pour que ça change, c'est parce que tu n'espères plus que ça change. Si tu ne fais plus rien pour que ça change, c'est parce que tu n'espères plus que ça change. Et si tu n'as plus d'espoir, c'est que tu n'as pas entendu le langage de Dieu te parler. Parce que quand Dieu parle, il crée l'espoir. L'espérance est le langage du Saint-Esprit. Quand le pasteur Bruno, par exemple, prophétise, c'est qu'il donne l'espoir. C'est ce que Dieu veut pour nous. Romains 12, verset 12 nous dit ceci. Romains 12, verset 12. Regarde ton voisin et dis-lui, réjouis-toi en espérance. Cela signifie que celui qui a une espérance vraie dans le Seigneur, même si les moments sont durs, il est capable d'avoir la joie. J'ai déjà dit ici à l'église, mais je vais le redire parce qu'il est bon de nous rappeler cela dans ce contexte. Je vous disais une fois, les gens du monde se réjouissent dans des divertissements pour avoir de la joie. Mais les enfants de Dieu ont de la joie, c'est pour ça qu'ils se réjouissent. C'est pas pareil. Comme le pasteur Bruno disait tout à l'heure, c'est parce qu'on a de la joie qu'on se réjouit. On se réjouit parce que notre espérance est en lui, en Dieu. Et quand tu as de l'espérance, tu as la persévérance. Quand tu as de l'espérance, tu désires la croissance. Quand tu n'espères plus, tu ne fais plus rien. Et ton espoir devient mort. Mais celui qui arrive à se réjouir en espérance, il se dit comme on a vu dimanche dernier, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qui me fera justice. Celui-là se réjouit en espérance. Et il se répète en lui-même, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qui me fera justice. Jean 3:2 nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est un verset dangereux. Ce verset dit, tu sais quoi? Si tu crois en Jésus, tu es un enfant de Dieu. Mais ce que tu es, totalement, n'est pas encore manifesté. Mais si tu crois en cette vérité, quiconque croit en cette vérité, qu'il est un enfant de Dieu, une nouvelle créature née de l'Esprit, quiconque a cette espérance, même s'il n'a pas encore expérimenté tout ce que Dieu a pour lui, même s'il n'est pas encore devenu pleinement ce que Dieu veut qu'il devienne, la Bible dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Jésus est pur. C'est-à-dire, l'espérance nous pousse réellement à la croissance. L'espérance nous pousse à la sainteté. C'est l'espérance qui nous pousse à nous purifier. Celui qui n'a pas d'espérance n'a pas envie de mieux faire. Mais celui qui espère, celui qui a de l'espoir, marche dans la victoire. Il n'est pas une victime. Il a de l'espoir. Romains 15:13 nous dit que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Waouh ! Par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que... Imaginez, frères et sœurs, imaginez si nous les Français, nous abondions en espérance. Au lieu d'avoir et d'entendre parler de la crise qui te déprime à chaque fois, tu entends parler de Christ qui te reprime à chaque fois, qui te fortifie à chaque fois, qui te donne de l'espoir. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et pour conclure et passer à la remise des diplômes, presque tous les étudiants maintenant sont presque assis, j'aimerais terminer par ce verset, particulièrement pour les étudiants. Vous avez pour les premières années, deuxième année, surtout troisième année, eu 3 années d'études bibliques. Et gloire à Dieu pour tous ceux et celles qu'on a vus et qui sont en ce moment en train d'expérimenter leur destinée. Nous sommes, pasteur Bruno, nos épouses, nous-mêmes, surpris et ébahis, spectateurs de ce que Dieu fait au travers de vous. Ce que vous faites, nous ne pouvons pas le faire. Et gloire à Dieu pour cela. Car comme disait le pasteur Charles tout à l'heure, tu es appelé à devenir toi-même. Pas quelqu'un d'autre. Alors va avec la force que tu as, comme dit Dieu à Gédéon. Quelle est cette force? Le Saint-Esprit qui vit en toi. Et tu as reçu, cher étudiant, beaucoup d'enseignements. Mais le but de l'enseignement n'a pas pour objectif de faire de toi un étudiant, mais un disciple de Jésus-Christ. Et dans Romains 15:4, la Bible dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance, donc la parole, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. afin que par la parole de Dieu qui nous réconforte, qui nous fait endurer, qui nous donne la patience, afin que cette parole-là nous permette de posséder l'espérance. Plus tu es rempli de la parole de Dieu, pas dans la tête, mais dans le cœur, plus tu vas abonder en espérance. Et frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants, ce moment, c'est vraiment votre moment, nous voulons vous honorer. Et notre prière, surtout pour les troisièmes années, qu'on aura pu l'opportunité de revoir en cours, mais on aura l'occasion de faire autre chose en collaboration avec vous pour aider les nouveaux troisièmes années, et deuxième année et première année, mais que vous puissiez abonder en espérance. Que l'espérance soit votre héritage, notre possession. C'est pour ça que nous avons reçu la parole de Dieu, pour posséder l'espérance que donnent les Écritures. Amen.